Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Chapitre 3. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros. Je vous le dis pas en espagnol, hein, d'accord? Ça va? Il y a Juan qui a fait un sourire jusqu'aux oreilles. Hein? Est-ce qu'on est prêt à être dans la parole de Dieu, mes amis, ce matin? Amen. Est-ce que le son est suffisamment bien? Pas dans les retours, en tout cas un tout petit peu plus, pas trop fort, mais quand même bien dans les retours pour que je puisse qu'on soit entouré de la parole de Dieu. Mes amis, il y a un temps nouveau qui arrive pour notre Église. Vous êtes d'accord? Amen. Et le Seigneur maintenant appelle et amène dans notre Église des constructeurs, des reconstructeurs, qui soient à la fois des gens capables de construire, mais des gens capables de se battre contre les ténèbres. Et surtout dans Néhémie, on le voit, c'était pas tellement qu'il y avait une guerre, c'était pas tellement que l'ambiance était difficile, mais il y avait une guerre plus lancinante, plus difficile à vivre. C'était celle du laisser-aller. Dites avec moi, le laisser-aller. Parce que l'ambiance du monde, l'atmosphère du monde avait réussi à conquérir le peuple d'Israël qui s'était fondu dans la masse. Tout le monde est bien concentré, n'est-ce pas? On est maintenant dans la parole de Dieu. C'est le plus important, c'est le moment le plus important du culte. Et donc vraiment, écoutons la parole de Dieu. Mettez-vous dans l'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, il faudra lire Néhémie pour vous en rendre compte. Mais on était dans une ambiance qui, pour moi, est un peu celle de notre société actuelle. Depuis 10 ans ou 15 ans en France, on voit une grâce, c'est-à-dire on a moins de problèmes pour prêcher l'évangile. Les portes s'ouvrent, on peut louer des stades, on peut louer des endroits pour prêcher l'évangile. Mais il y a une guerre plus sournoise. Il y a une tendance qui à nous endormir et à endormir le peuple de Dieu qu'on voyait du temps de Néhémie. Et il y avait un problème, c'est que il n'y avait plus de frontières entre le monde, entre la vie des rois de l'époque, hein, n'est-ce pas? Et les enfants de Dieu. Si bien que, sans s'en rendre compte, les enfants de Dieu étaient en train de perdre la force de leur foi, de perdre l'essence de leur temple, n'est-ce pas, de perdre même leur culte. Et puis, il n'y avait plus de force qui était comme cela. Et à un moment donné, Néhémie, qui était celui qui apportait le vin, hein, le goûteur du vin, qui était celui qui voilà, les chansons du roi, voilà, les chansons du roi, commence à se dire, le Seigneur commence à le toucher dans l'intercession. Vous savez, souvent, Dieu touche prophétiquement d'abord les intercesseurs et les ministères, il leur montre une vision, puis ensuite ça touche les intercesseurs, c'est confirmé par les prophètes. Et donc Néhémie reçoit une charge nouvelle pour que dans son pays, il n'y ait plus ce péché lancinant, ces orgies, ces divorces, ces se laisser aller dans les choses de la foi dont même le peuple d'Israël est pris dedans, puisque il ne pense qu'à travailler, à construire ses maisons, etc. Il ne pense plus au Seigneur suffisamment. Et il y a un grand symbole qui le manifeste, c'est-à-dire qu'à Jérusalem, la ville du Seigneur, elle est pleinement abandonnée. Il y a encore des Juifs, il y a encore des étrangers, tout le monde est en même temps, mais les murailles sont ébréchées, elles ont été jadis brisées, elles ont été défaites, chaque pierre, beaucoup de leurs pierres ont été enlevées. Et voici que, par l'intercession, c'est comme si Néhémie reçoit une révélation, une charge qu'il n'avait pas avant, celle de reconstruire la muraille. Et la reconstruction de la muraille, évidemment, c'est tout un symbole. Ça veut dire que de mettre de manière très claire, visible, officielle, déclarée, autour de ce territoire, n'est-ce pas? Imaginons que ici représente Jérusalem. Eh bien, de reconstruire une sorte de muraille qui trace une frontière entre une vie de Patachon et une vie dans le Seigneur. Aussi, un territoire dédié, sanctifié, mis à part. Dites avec moi, mis à part. Est-ce que tout le monde peut dire avec moi, mis à part? Est-ce que vous savez en grec ce que ça veut dire, ce terme? Ce terme, c'est ecclésia. Dites avec moi, ecclésia en grec. D'accord? C'est-à-dire que Néhémie reçoit prophétiquement par le Saint-Esprit. Soyez tous présents avec moi en train de m'écouter, parce que ça va pas être long, mais ça va être bon. N'est-ce pas? Amen. Et prophétiquement, c'est le temps de rebâtir ceux qui pourront déclarer qu'il existe une mise à part possible de gens qui croient autre chose, qui ne veulent pas être séparés du monde, et on va le voir pourquoi, où on n'est pas enfermé comme dans une prison, mais un territoire d'ecclésia, un territoire de mise à part. Et ecclésia en grec, ça veut dire l'église. Vous avez compris cela? Et voici que Néhémie, n'est-ce pas, dit, je vais reconstruire ces murailles. Et il va voir le roi, et il lui dit, donnez-moi, mon cher roi, des moyens, de l'argent. Donnez-moi du peuple, n'est-ce pas, donnez-moi l'autorité pour pouvoir vraiment reconstruire mon peuple. Et dans ce texte, on voit que il était en train de servir le roi Artaxerxès, n'est-ce pas, si on arrive à le dire, n'est-ce pas, moi j'arrive pas à le dire. Et un jour, il était triste, et en le servant, le roi lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu fais la tête? On aurait dit un français, n'est-ce pas, pardon, hein? Non, pas nous, hein, pas nous ici, mais. Et il lui dit, mais c'est à cause de la muraille d'Israël, c'est à cause de Jérusalem, c'est à cause de mon peuple. Et moi, j'ai dit, quelle bénédiction lorsque quelqu'un qui prie, quelqu'un de prophétique peut parfois ressentir comme cette souffrance d'une mère qui voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut reconstruire. Quelle bénédiction quand on peut sentir ça pour son pays, c'est que Dieu a mis dans notre cœur un cœur de chair et non plus un cœur de pierre. Ou alors non pas un cœur, un esprit distrait, mais un esprit concentré sur le fait qu'il est important pour une nation entière qu'il y ait un territoire où on sait qu'on peut vivre autrement, où on peut venir pour trouver la paix, pour trouver la guérison. Et ce territoire, vous disais-je, n'est pas fermé puisque cette muraille qu'il veut reconstruire comporte un nombre important de portes, n'est-ce pas? Et ces portes-là permettent d'entrer et de sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une coupure entre la vie normale et ce sanctuaire que représente, n'est-ce pas, ici Jérusalem. Il y a vraiment la possibilité, non seulement pour ceux qui y sont, d'y ressortir et d'y revenir à leur guise, mais également de ceux qui sont à l'extérieur de venir trouver en l'Éternel un refuge. Alléluia. Il y a une chanson que Christine chante souvent, c'est « J'ai trouvé en l'Éternel un refuge ». Je ne sais pas comment c'est cette chanson-là, c'est certainement pas les bonnes paroles, mais je me souviens, n'est-ce pas, un lieu sécurisé où je veux habiter. Bon, voilà, c'est même pas les paroles comme ça, mais au moins, elle voit de quoi je veux parler. Donc, ici, ce Néhémie arrive à convaincre ce roi, il arrive à avoir les budgets, il y va, il persévère, évidemment, tout le monde dit, oh, c'est pas possible, un peu comme nous, on le vit pour Honfleur. Ah, mais on n'y arrivera jamais, ah, mais on a autre chose à faire. Il y a beaucoup de ses compatriotes, n'est-ce pas, qui même méprisent ce qu'ils font, d'autres n'y prêtent même pas attention, ils sont trop occupés dans leur entreprise, ils sont trop occupés dans leur propre ministère, dans leur famille, etc., etc. Mais Néhémie va continuer, Néhémie va persévérer, et nous allons prendre ce texte d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui va être le texte que j'aimerais que vous vous souveniez pour aujourd'hui, dans Néhémie 3, au verset 1. Le souverain sacrificateur se leva de ses frères, les sacrificateurs, dites avec moi les sacrificateurs, n'est-ce pas, ça veut dire que là on parle entre gens qui ont la foi, n'est-ce pas. Est-ce que ici il n'y a que quelques sacrificateurs, ou est-ce que vous êtes un peuple, vous aussi vous êtes sacrificateurs? Vous avez compris ce que c'est l'Église? Hein, ici, il y a des sacrificateurs et pas ici. Ah, c'est dommage, hein, dommage pour vous. Mais normalement, la Bible dit, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Alléluia, nous avons reçu la puissance, l'autorité pour être des sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons autorité pour prêcher l'Évangile. Alors, est-ce qu'il y a ici des gens qui ont autorité pour faire l'œuvre de Dieu? Levez la main. Ah là, il commence à en avoir quelques-uns qui se lèvent, pas tous. Ah ben alors, allez-y, levez tous la main, tous, levez la main. Tous, s'il vous plaît, levez la main bien haut, parce que nous sommes tous un peuple de sacrificateurs. Amen. C'est l'œuvre de Christ. Ici, il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Répétez après moi. Et ils bâtirent la porte des brebis. Tout le monde le dit avec moi. Et ils bâtirent la porte des brebis. Est-ce que ça va être difficile à retenir le message d'aujourd'hui? Non? Alors c'est quoi? Et ils, la porte des brebis. Alors ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hanaël. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho, à côté les, aussi ceux de Zakur et ceux d'Imri, etc. Je vous fais grâce, n'est-ce pas, de tout le chapitre. Vous allez voir, après la porte des brebis, ils vont construire la porte des poissons. Ensuite, la vieille porte. Ensuite, verset 13, la porte de la vallée. Ensuite, la porte du fumier, verset 14. Alors, celle-ci, j'espère que moi, j'aurais pas été choisi pour celle-ci, quoique, hein, n'est-ce pas? La porte de la source, verset 15. La porte des eaux, verset 26. La porte des chevaux. Puis, la porte de l'Orient. Et la porte de Mikpad, Mifkad, qui veut dire aussi la porte de l'inspection, n'est-ce pas? Alors, j'en ai peut-être oublié une, mais normalement, je ne pense pas. Alors on revient ici, donc il y a un grand travail qui va être fait, la muraille va être redressée, n'est-ce pas? Nous pouvons continuer au verset 3 et la Bible dit « Les fils de Sénéa bâtirent la porte de poissons, ils la couvrirent, etc. en posant les battants, les verrous et les barres ». Dans l'autre traduction ou en espagnol, dès le premier verset, on voit aussi que pour la porte des brebis, eh bien ils reconstruisent aussi avec les barres, les bâtons, etc., etc. Alors, moi, j'aimerais vous dire que, après ces épreuves et ces difficultés que nous avons pu vivre ces dernières années, je peux vous dire que parfois, ma vie a été un peu mise à l'épreuve, hein. Ma foi a été mise à l'épreuve, ma persévérance aussi. J'ai eu des moments difficiles, des moments parfois où j'avais l'impression de perdre un peu ma motivation. Évidemment, j'essaie de ne pas trop le montrer, de régler ces choses devant le Seigneur, mais nous sommes tous des êtres humains. Mais actuellement, c'est vraiment dans un cœur rempli d'enthousiasme, de joie et de foi que je me présente devant vous. Je sais que ce temps d'épreuve où le palais est sec, où la gourde, comme disait le pasteur la semaine dernière, on la secoue, il n'y trouve plus rien, eh bien, est un temps difficile. Mais je suis aussi passé par ce temps où le Seigneur me dit, comme il nous l'a dit la semaine dernière à l'église, « Mais dis donc, espèce de rigolo, plein de poils, à moi il me parle comme cela ». N'est-ce pas? Peut-être pas à vous, mais il y a un puits juste à côté de toi et toi tu te plains, mais puisse donc dans ce puits. Et je sais que nous avons trouvé un puits, alléluia, et que ce puits est en train de venir. Ce puits notamment, c'est un puits dans ce qui nous concerne l'église, mais aussi pour autre chose qui est notamment ce puits économique que nous sommes en train de mettre en place depuis une semaine. Vraiment, le Seigneur est en train d'appeler surnaturellement des gens qu'il a choisis pour rebâtir avec nous la muraille. Et vous savez, notamment si vous voulez vous-même faire partie, bien vous, il y a une sorte de méthode, une qui provient du Seigneur, une intelligence divine qui provient du Seigneur, qui fait que Dieu a ouvert des portes incroyables et nous sommes sur le point de commencer à construire Natureo à côté. Ceux qui payent des impôts, venez vite me voir, il reste quelques jours, n'est-ce pas, pour que vous puissiez être libérés de vos impôts et que vous puissiez avec nous construire la muraille du Seigneur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Dieu est en train de nous permettre, alors que nous sommes en train d'y travailler, il est en train d'envoyer vraiment des forces et du muscle dans son église, comme au moment de Néhémie. Au début, personne n'y croyait. Quand il a fait les plans, tout le monde a rigolé. Il a dû travailler, il a dû bosser. Mais après, quand il a dit « maintenant, c'est le moment », soudainement, il a commencé à voir des peuples qui venaient de droite et de gauche, des généraux, des constructeurs, des ingénieurs, les meilleurs ouvriers qui ont commencé à le venir. Il y en avait beaucoup qui venaient pas encore, mais c'est pas grave, ça lui a suffi pour être encouragé, parce que c'était le temps de la construction. Alléluia. Et nous, cette semaine, c'est ce que nous avons senti. D'ailleurs, j'en parlais à Yann de ce qui se passait, que vraiment les gens venaient de partout pour fortifier la vision que nous avons à l'église, même au niveau de Pentecôte. Et Yann m'a dit une parole qui m'a touché. Il m'a dit oui, c'est comme dans la vallée d'Ézéchiel. Il a dit, il a fallu que le squelette soit là et ensuite Dieu lui a mis du muscle, n'est-ce pas? Et il m'a dit, après Dieu, il va le vivifier par son esprit. Alléluia! Amen! Et vraiment ça m'a encouragé parce que je me suis souvenu d'une prophétie que Dieu avait donnée à notre église, alléluia, et sur la France, sur la vallée d'Ézéchiel, et combien, même quand on voit des eaux, des choses qui sont même parfois éparpillées, Dieu les rassemble, alléluia, et Dieu soudainement en fait un corps, et ce corps, c'est l'ecclésia de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et voici que Néhémie est là, et lui, il y va, et autour de lui, eh bien, il y a des gens qui soudainement progressent, font progresser l'image du Seigneur à mesure que leur foi progresse, que leur engagement progresse et à mesure que leur décision de rebâtir la muraille se met en place. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient passifs ou des gens qui étaient trop préoccupés par d'autres choses. Ils avaient leur business, ils avaient leur entreprise, ils devaient élever leurs enfants. Mais soudainement, la charge du royaume de Dieu, la charge de reconstruire leur tombe dessus comme à Néhémie. Et soudainement, ce n'est plus une seule personne qui vient, mais ils disent « moi aussi, moi aussi, moi aussi ». À tel point que Néhémie est obligé de réorganiser et d'entrer dans une nouvelle dimension, non pas de ceux qui voient toujours et qui ne pensent qu'à eux pour se reconstruire, mais de ceux qui disent « nous aussi, même si on a une jambe en moins, on peut quand même travailler avec toi Néhémie ». Même si on n'est pas un bâtisseur, il y avait des ingénieurs, mais il y avait aussi des pâtissiers, des boulangers. Vous avez déjà vu un boulanger qui travaille bien pour monter un mur? Peut-être que ça existe, mais s'il y avait des gens qui sont dans le travail financier comme moi, ben je peux vous dire, ça ne sait pas construire un mur. Mais même ces gens-là disaient, ah Néhémie, moi je vais arriver, pourquoi ne serais-je pas ton manœuvre? Soudainement, il y avait ce feu pour construire. Alléluia. Et ici, la Bible nous dit, ils rebâtirent quoi? La muraille, ça c'est vrai, mais tout à l'heure, c'est pas ce que vous avez répété. La porte des brebis. Allez, dites-le encore avec moi, église. Ils rebâtirent la porte des brebis. Alors vraiment là, et j'aimerais vous partager ce message ce matin. J'ai été très surpris lorsque j'ai compris ce texte. Il y a plusieurs portes, 10 ou 11, je crois. Et peut-être même 12, je sais pas, mais elles sont pas toutes citées ici. Je crois qu'il y a 12 portes dans Jérusalem. Mais la première que le Seigneur donne à cœur à Néhémie de reconstruire, c'est la porte des brebis. Et ça, c'est très important. La porte des brebis, c'est le Seigneur qui nous donne un message, qui donne un message à Néhémie et qui dit, hey, les amis, si vous voulez reconstruire la muraille dans votre couple, si vous voulez sanctifier le nom du Seigneur dans votre église, si vous voulez sanctifier dans votre pays ou dans votre entreprise, il ne faut pas commencer par n'importe où. Il faut commencer par la porte des brebis. Alors, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, qu'est-ce que ça veut dire la porte des brebis? La porte des brebis, c'est le ministère envers ceux qui sont perdus. C'est l'exercice de l'amour dans notre vie personnelle. Je me suis dit, mais oui, un couple qui ne donne jamais rien aux autres ne peut pas se construire lui-même. Une église qui n'est pas tournée vers les autres, elle s'enferme. Or, la muraille de Jérusalem avait 12 portes, ça voulait dire dehors parfois, il ne faut pas rester enfermé. Et puis parfois, vite, revenez, il y a un danger, revenez, ou venez vous faire du bien. C'était dehors, dedans, mais ça, voilà, il y avait une entrée, une sortie, n'est-ce pas, qui était là. Et ici, le Seigneur nous dit une chose, c'est que pour édifier la muraille, pour reconstruire dans le bon sens, pour qu'il y ait un pays qui soit changé, la première chose qu'il faut faire, c'est reconstruire la porte des brebis. La porte des brebis. Dites-le encore avec moi et dis-le à ton voisin, donne-lui un gros coup de coude. Reconstruis la porte des brebis. Alléluia. Alors, ceci nous montre que seule l'évangélisation, la création des églises locales, en ce qui concerne l'église, permettent cette porte d'entrée. Tout à l'heure, on a prié pour nos bien-aimés qui rejoignent l'église et qui viennent de se marier, n'est-ce pas? C'est-à-dire que eux, ils étaient dans le monde. Et ils ont emprunté la porte des brebis et ils ont retrouvé dans la Jérusalem du Seigneur, le royaume de Dieu, ils ont retrouvé un sens à leur vie. Maintenant, ils peuvent aller, retourner, sortir, trouver des vers pâturages. Seule l'évangélisation dans notre église, mais seul aussi le témoignage dans notre vie de chrétien, eh bien, va nous permettre de commencer à rebâtir bien la muraille. Cette muraille, cette attitude de témoigner autour de nous, cette attitude d'évangéliser, cette attitude de parler de notre foi, et l'attitude principale, dis-le avec moi, l'attitude principale, ça doit être l'attitude première dans notre vie. Elle est prioritaire et elle doit le rester tout au cours de notre vie chrétienne. Écoutons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Elle doit le rester dans tout ministère, dans tout couple, dans toute famille, dans toute église. Elle doit être l'objet de toute notre attention. On ne doit pas l'oublier, même si le Seigneur nous invite à reconstruire d'autres portes. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a des gens qui ont eu un ministère pour reconstruire la vieille porte. Il y a d'autres qui ont eu un ministère pour reconstruire la porte des poissons. Dieu les a appelés, on n'est pas tous appelés à reconstruire la même porte, mais quand on commence et quand on est ensemble, eh bien on doit d'abord construire celle-ci. Et c'est vrai en tant qu'église, c'est vrai dans la logique nationale, si on veut une croissance de l'évangile dans notre pays, mais c'est vrai dans ta vie personnelle. Dans ta vie personnelle, tu peux essayer de reconstruire la porte du fumier d'abord, mais le Seigneur dit non, ce qui va te permettre d'être fort et de continuer à progresser, eh bien c'est te souvenir de la grâce. Tout est grâce. Tout demeure grâce. Et il faut que la porte des brebis puisse ouvrir vers toi. La porte des brebis, parce que toi-même, tu es une brebis, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que tu as toujours besoin de te considérer comme ayant un besoin, mais aussi une porte où les autres peuvent, grâce à toi, passer et entrer et découvrir le Seigneur. Et cette grâce, cette porte qui donne accès à l'amour de Dieu, elle est première. Elle passe avant les considérations financières. Elle passe avant notre travail, dans notre couple, et dans ton jeune couple, mon bien-aimé, elle est première. Bien sûr, on peut se construire, mais on doit d'abord toujours se souvenir, même en dépit de nos convictions, que le Seigneur nous dit, reconstruis la porte des... Dis-le avec moi, reconstruis la porte des brebis. Alors moi, je me suis posé cette question, Freddy, est-ce que tu as restauré la porte des brebis dans ta muraille? Est-ce que, où en est ton amour pour les perdus dans ta vie? En lisant ce texte, je me suis arrêté là et j'ai commencé à méditer. Je dis, waouh, où en est mon amour pour les perdus? Puis j'ai commencé à penser à plusieurs de mes voisins qui sont venus me voir cette année, qui voulaient savoir pour le Seigneur. Puis je leur ai dit, d'accord, on se verra. Puis je les ai pas vus. Ou alors je les ai envoyés au pasteur Alexandre en disant, ben maintenant c'est le pasteur Alexandre qui ministre, moi je construis une autre porte. Peut-être je me disais pas ça comme ça. Et j'ai commencé à penser à tous ces gens. J'ai dit, waouh, je suis en train de mettre une autre priorité dans ma vie. Peut-être je construis la porte, la vieille porte. Ou peut-être je suis en train de reconstruire la porte de l'inspection. Mais j'ai oublié la priorité. C'est que je peux faire tout ce que je veux, mais je dois prendre du temps. Quand Maurice me téléphone, quand Georgette me téléphone, quand Kevin me téléphone, quand, je ne sais pas, Abdullah me téléphone. Est-ce que je dis, ben non, j'ai mon boulot, non, je travaille, non, je suis pas évangéliste, et je suis plus pasteur, ou je travaille autre part. Ouh là là, j'ai dit, est-ce que tu as participé ces derniers temps à la restauration de la muraille dans ton pays, là où le Seigneur t'a placé? Alors je pouvais lui dire, oui Seigneur, avec Pentecôte, avec d'autres choses. Alors ça faisait plaisir de pouvoir dire oui, mais est-ce que tu as participé? Le Seigneur me disait plus maintenant tu étais passif, il me disait est-ce que tu as participé? Est-ce que tu fais partie de ceux qui rebâtissent ou est-ce que tu fais partie de ceux qui disent j'ai besoin de passer par la porte et qu'on s'occupe de moi? Ici le Seigneur parlait à un bâtisseur, à un homme de Dieu. Comme il parle à un homme, une femme de Dieu. Et quand je méditais, je me disais ou alors est-ce qu'au contraire, Freddy, tu as construit à l'envers en privilégiant d'autres portes? Est-ce que tu as employé la bonne stratégie? Ou alors est-ce que tu as fait ce pourquoi tu te sentais plus à l'aise? Est-ce que tu t'es dit, non, c'est pas tout à fait mon don, ou alors c'est plus mon rôle maintenant? Qu'est-ce que tu as continué à construire? J'ai pensé à notre église, j'ai pensé à la foi dans ce pays, et j'ai pensé que c'était tellement plus facile de dire, non, j'ai donné pendant des années maintenant que les jeunes s'y collent. Et peut-être que je l'ai pas toujours fait, j'ai parfois donné un coup de main, mais j'avais l'impression que je pouvais peut-être faire mieux, n'est-ce pas? Et surtout que pour construire cette muraille, le Seigneur dit d'abord, ils construisirent, ils bâtirent la porte des brebis. Alors, cette porte d'entrée, c'est la porte d'entrée la première. C'est la prioritaire. C'est celle qui doit être toujours l'objet de toute notre attention. Et le Seigneur a pourvu à tous les matériaux pour construire la porte du temps de Néhémie. Cette porte suggère qu'il y a du bois, n'est-ce pas? Et ce bois nous rappelle la croix du Seigneur Jésus-Christ. Il faut passer par le bois, il faut aller prendre le bois, il faut remettre du bois dans notre relation de couple, par exemple. C'est-à-dire, le bois du Christ nous rappelle la grâce, c'est le pardon, c'est une attitude positive, une positive d'avenir. Et au lieu peut-être de voir plutôt tous les problèmes, peut-être on a besoin dans notre couple, on a besoin dans notre église, on a besoin dans notre pays de repasser parfois, de se souvenir de la croix du Christ qui doit être la porte d'entrée, la première dans la citadelle. Il n'y a pas de restauration de la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas guérir si tu ne passes pas par la croix. Et j'ai pensé, je me suis dit, combien de fois on peut passer par les services spirituels de toutes les sortes qu'on peut inventer dans notre pays, ou les services psychologiques, ou les services médicaux, ou les services de tout ce que tu veux. Mais il faut passer par le bois, il faut passer par la croix. La première porte d'entrée pour la guérison dans ma vie et pour que Néhémie reconstruise vraiment la muraille du cœur et de son pays, c'est la croix de Christ. Et plus tard, en mettant cette croix par laquelle tu peux passer, n'est-ce pas, qui était un peu ce bois qui était éparpillé, on le structure et on en fait une porte d'entrée vers quelque chose de nouveau. Et cette citadelle qui nous reçoit, c'est l'Ecclésia de Dieu, c'est l'Église du Christ. Alléluia. Et donc je me disais, Freddy, attention, tu as les activités professionnelles, chacun sait que je dirige les entreprises maintenant, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'Église reste ta préoccupation? Est-ce que ce que tu construis même le fait pour pouvoir rentrer, ramener des gens dans l'Église et surtout qu'ils puissent sortir les gens de l'Église dans le monde pour évangéliser, être un témoignage? Il faut passer par la croix, alléluia. Cette croix, c'est le barrage entre la vallée du péché et la cour de la grâce. N'est-ce pas? Vous l'avez vu tout à l'heure avec mon témoignage. Un jour, il a fallu que je passe par cette croix pour demander pardon. Et Dieu a fait de ce jour de péché, il a fait aujourd'hui un jour de grâce et de miséricorde. Alléluia. Et il y a tellement de gens dans le monde qui ont vécu quelque chose comme ça. Les religieux ne supportent pas la grâce. Les religieux vont dire, ah, il a fait ça, il est indigne, ou elle a fait ça, etc. Et puis tu vas avoir l'impression que tu peux plus venir par Christ. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Dans la muraille de France, si tu passes par la porte des brebis, tu vas rencontrer Jésus-Christ, le bon berger, alléluia, qui sur la croix est là, et il t'attend, il te dit, passe donc par moi. Souviens-toi donc de la priorité dans ta vie. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Car ici, cette porte, n'est-ce pas, elle va te protéger des brigands, des voleurs, des religieux qui veulent toujours t'assaillir. Cette porte, on le voit dans la parole de Dieu qui précise qu'ils ont mis les barres, qu'ils ont mis les fers, qu'ils ont mis les gonds. Ça veut dire qu'ici, la Bible nous montre quelque chose. C'est que Néhémie n'a pas négligé le bois et il n'a pas négligé la construction de cette porte dans sa vie. Il l'a fortifiée, il l'a solidifiée, il en a fait un tout, un ensemble, n'est-ce pas? C'était plus du bois éparpillé ou du bois mangé par les vers, comme souvent notre miséricorde est mangée par les vers. Combien de fois en tant que chrétien, après les années, on n'a plus assez de puissance. On ne voit plus la puissance de la croix. Elle est mangée, cette conviction de grâce est mangée par la religiosité. Elle est mangée par la tristesse. Elle est mangée par la déception de la vie chrétienne. Parce qu'on peut être déçu parfois de la vie chrétienne. Alors le Seigneur dit à Néhémie, reconstruis la porte des brebis. Et il dit à notre église aujourd'hui, alléluia, oh. Ça m'a fait du bien ce texte. Ça m'a remis en question. J'ai toujours essayé de faire attention que mes convictions et mes motivations soient justes. Mais là, je les purifie encore plus dans le Seigneur. Cet amour de Dieu, ces montants solides que Néhémie a reconstruits, nous parle de l'amour de Dieu qui nous enlace. En haut, en bas, autour. La Bible le dit dans Romains, alléluia, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu, alléluia. Et lorsqu'on construit une église en France, lorsqu'on construit un mariage, lorsqu'on construit une famille, lorsqu'on reconstruit selon Christ, il faut qu'autour de nous, de cette porte, de la croix de Christ, soit entouré le don de l'amour, alléluia, comme ces pierres, comme ces barres qui nous fortifient. Et quand on essaiera de briser avec le bélier du péché cette porte, eh bien elle va résister. Pourquoi? Parce que l'amour est plus fort que la mort. Amen. Et nous y tenons dans cette église que l'amour soit plus fort que l'esprit de mort qui est véhiculé par la religiosité, qui est véhiculé par le péché, qui est véhiculé par le découragement et par la tristesse. Alléluia. Cette porte est enlacée par l'amour du Seigneur. Cette porte doit aussi être utile. Et pour pouvoir être utile, elle ne saurait tourner sur elle-même sans les gonds qui sont arrimés, n'est-ce pas, puissamment à la muraille et qui attachent cette porte. Et ces gonds qui permettent de tourner, n'est-ce pas, et d'entrer, de sortir, eh bien ce sont les gonds qui représentent la parole de Dieu. Cet ancrage, n'est-ce pas, c'est non seulement ces gonds, mais comment on appelle on a un grand menuisier, où est-ce que, comment on appelle comment on appelle ce qu'on met dans les murs, tu sais, pour attacher les portes?
Comment? Ah, c'est les gonds. Ah bon, tu vois, hein, c'est ce qu'on met dedans. On a un grand professionnel qui est avec nous ici. Il peut vous expliquer mieux que moi cette histoire de porte là. Et cette parole de Dieu nous permet de rester ancrés dans le but que nous avons, que tout ce que nous faisons, c'est de reconstruire cette muraille, et que notre vie au palais du roi ne sert à rien à moins qu'on soit puissamment arrimé dans la parole de Dieu. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous dit, je vous l'ai lu tout à l'heure, que Eliakim a dû, le souverain sacrificateur qui dans ce texte nous fait songer à Jésus-Christ, au Seigneur, notre bien-aimé, eh bien, il fallait qu'il parvienne à réunir ses frères pour qu'ils construisent ensemble les autres pasteurs, les autres croyants engagés que nous sommes pour un travail de charpentage, d'unification, de solidification de tous ces éléments en vue d'en faire une porte. La Bible le dit, hein, n'est-ce pas? Ils le charpentèrent, ils en posèrent les battants, les verrous et les barres. Alléluia! C'était tous des éléments disparates. Chacun travaillait, il y avait une vis dans son coin, un gond dans son coin, un bout de bois dans son coin. Et le seul moyen pour en faire une porte qui ouvre, c'est de les réunir ensemble, de les attacher ensemble dans une même vision, celle d'une porte. De la même manière, tu pourrais être un magnifique vis dans ton coin. Tu peux être une magnifique poignée, c'est merveilleux, mais tu serviras à rien tant que tu es sur l'établi. Mais si tu es là à ta place, tu vas pouvoir servir le Seigneur sans te comparer aux autres. On a des bien-aimés qui sont allés au séminaire prophétique. Ils savent une chose, c'est que c'est important, mais que ce n'est pas l'essentiel. Qu'ils ont besoin d'être dans une vision complémentaire avec les autres. Ceux qui font les enfants sont complémentaires avec moi, parce que s'ils n'éduquent pas mes enfants, que va-t-il se passer le dimanche matin? Alléluia, nous sommes ensemble, l'Ecclésia de Dieu, unis ensemble dans nos dons, et nous devons les mettre ensemble au travail, n'est-ce pas? Pas sans rester, sans rien faire. Cette unité dans le travail, n'est-ce pas, va forger un amour puissant, va forger cette porte des brebis. Amen. Et va permettre à beaucoup d'être sauvés. Et puis, elle devra ensuite être bien huilée pour tourner, sinon ça va... Et elle devra être bien huilée. Et cette huile qui va venir à la fin, comme le disait Yann quand on parlait cette semaine, il disait, il faudra que ce corps soit rempli de l'esprit, n'est-ce pas? Eh bien ici, cette porte également dans Néhémie aura besoin de cette huile, alléluia, qui est le Saint-Esprit. Cette huile, elle se met sur le gond. Elle permet, n'est-ce pas, de huiler les relations, c'est-à-dire que soudainement, ceux qui étaient un peu en tension, eh bien, s'apprécient, ils s'aiment parce qu'ils réalisent qu'ils sont en communication les uns aux autres. Soudainement, si je t'ai blessé dans le passé, peut-être en ai-je blessé certains d'entre vous, eh bien, cette huile du Saint-Esprit fait que vous parvenez à me pardonner. Et si vous m'avez blessé, moi aussi, je vous pardonne. Mais également, cette huile sur le deuxième gond, c'est celle des dons spirituels. Alors, comme nous sommes en action, nous avons dit, nous allons rebâtir là. Oui, et là, porte des brebis en premier, n'est-ce pas? Mais on rebâtit la muraille, c'est vous qui avez raison, parce que ça, c'est la première porte seulement, n'est-ce pas? Eh bien, je vais le faire, je suis en action, et le Saint-Esprit me remplit de dons spirituels pour rendre facile et agréable le fonctionnement de cette porte. Alléluia! Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une porte qui est coincée, n'est-ce pas? Ça nous énerve au possible. Alors, dans l'église, si nous sommes coincés, dans la famille, si nous sommes coincés sans amour, sans vie de l'esprit, sans culte personnel ensemble, oh là là, qu'est-ce que c'est? Alors, je terminerai en vous posant quelques questions. Pourquoi cette porte d'entrée est la première à n'être jamais rebâtie dans ce texte? N'est-ce pas surprenant? Pourquoi pas la porte des poissons au verset 3? Moi, la porte des poissons, ça me fait penser à l'attitude qu'on a souvent, nous les chrétiens, dire « Seigneur, pourvois ! Seigneur, donne ! Seigneur, que je jette les filets, je trouve un travail ! Seigneur, ça rentre ! Seigneur, ta bénédiction !» Souvent, nous les chrétiens, on dit « Seigneur, je vais construire la porte des poissons, la pêche miraculeuse. » Donc, on est là devant le Seigneur, puis on veut tous les poissons qui arrivent comme ça. Et j'ai dit « Oh là là, comme nous aimons bien que le Seigneur nous dise où jeter ce filet pour que tout vienne d'un coup. » Mais la porte des poissons vient après celle des brebis. On ne peut pas nous-mêmes avoir les bénédictions et les récoltes, n'est-ce pas, de cette pêche miraculeuse qui viennent dans notre vie, ou des poissons où on trouve de l'or dedans, comme dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, si on n'a pas d'abord rebâti la porte des brebis. Dieu ne donne pas sa gloire à personne, il faut passer par la croix, il faut passer par la miséricorde, il faut se souvenir que nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Alors pourquoi pas la vieille porte au verset 9? Alors ça va plaire à certains. La vieille porte quand même, est-ce que nos traditions ne sont-elles pas suffisantes pour conduire vers lui ses brebis? Et est-ce qu'on peut pas être chrétien traditionnel comme ça, tranquille? Pourquoi faut-il toujours s'embêter des autres, des brebis? Pourquoi faut-il toujours s'embêter de garder la miséricorde? Est-ce que la vie chrétienne ne suffit pas du moment qu'on pêche pas? Je bois pas, je fume pas, je baise pas à l'extérieur, ça va, hein? Et il y en a qui sont comme ça, hein? Ah, la vieille porte. Et il y a beaucoup de gens qui passent toute leur vie chrétienne à essayer de réparer les vieilles trucs, les vieilles attitudes, les vieilles choses. Ils font tous les secteurs possibles de l'église, mais ils oublient de faire du bien autour d'eux, de témoigner et d'être un véhicule de grâce. Bougez pas trop que je termine quand même mon message. Nous, on prie des heures, pour vous apporter des messages. Pourquoi pas, je pose encore d'autres questions, je vais pas faire les 12 portes, je vous rassure, mais pourquoi pas la porte de la vallée? Celle qui ouvre sur les perspectives nouvelles, le symbole de la liberté. Oh, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment la porte de la vallée, hein. Alors là, ils la prennent la première. Dès que le pasteur dit quelque chose, dès qu'il trouve que Jérusalem, c'est trop petit, taillot, je me casse, je peux être chrétien tout seul dans mon coin, je suis pas obligé de la ecclésia de Dieu. Avant, j'étais chrétien dans ma tribu, je peux très bien rester chrétien dans ma tribu du moment que je prie. Moi, je veux la porte de la vallée où je peux aller en toute liberté. À moi la liberté, je vis ma foi comme on veut. Mais n'oubliez pas que cette porte de la vallée peut conduire vers la porte de la vallée de la mort et de la souffrance aussi. Il y en a qui préfèrent reconstruire que cette porte, ne passer que par cette porte. Ah, pourquoi pas la porte du fumier? Elle est bien celle-là, hein. Ah, la porte du fumier, dans notre église, on est spécialiste, hein. Vous savez pourquoi? Parce que, entre nous, le pasteur me regarde comme ça, qu'est-ce qu'il va encore dire qu'on est la porte? J'ai pas dit des fumiers, pasteur, hein, j'ai dit du fumier, n'est-ce pas? Rassure-toi très bien. Mais, il y en a beaucoup quand ils viennent au Seigneur, ils cherchent un bon nettoyage. Ils cherchent à enlever les cacas passés, les crottins de leurs péchés, n'est-ce pas? Et c'est important, la délivrance, la guérison physique, la guérison intérieure, la guérison des souvenirs dans le Seigneur. Mais combien de fois après on dit, mais quand je serai réparé, je m'occuperai des autres. Quand j'aurai eu des dons, ça ira mieux. Quand j'irai mieux, quand je serai plus dépressif, quand je serai plus sous médicaments, quand j'aurai été guéri, quand mon service cœur à cœur aura fini, je m'occuperai des autres. Et ça, c'est le danger dans notre église où on a des services, où on fait du bien aux gens, mais après les gens, ils sont là, ils attendent. Mais ici, le Seigneur leur dit, et je pense que c'est un message aussi à dire aux responsables de cœur à cœur, et de leur dire, dites aux gens de reconstruire premièrement dans leur vie la porte des brebis, parce que c'est ça qui va leur donner ensuite de reconstruire la porte du fumier. Mais la porte du fumier, elle vient en quatrième position. C'est pas parce que t'as pas enlevé tout le fumier de ta vie que tu peux pas déjà quand même faire venir les gens par Jésus et te souvenir de la grâce et être en action. Alléluia! Amen! Bien sûr, il y a des gens spécialisés là-dedans, mais même eux, en travaillant sur cette porte des fumiers, ils doivent savoir qu'on peut nettoyer notre vie passée, etc. Mais ça n'empêche pas de garder la miséricorde. Alors, c'est ce que j'aimerais vous dire. Assurément, non. On ne peut pas passer, perdre son temps à construire d'abord d'autres portes. On les construira aussi. Mais il faut se souvenir que, il me semble, à la lecture de ce texte, nous sommes enclins à nous tromper de priorité. Nous le sommes tous. Nous avons trouvé un lieu confortable et nous oublions, nous désirons sincèrement reconstruire d'autres portes d'abord. Hein, la porte du prophétique, la porte de l'éducation, la porte de l'enseignement, la porte de tout ce que vous voulez, de la louange. Et seulement ensuite, quand on sera en forme, quand on sera équipé, pensons-nous, quand on aura les budgets, alors nous reconstruirons la porte. Et nous amènerons, lorsqu'on aura des dons spirituels, on s'occupera des autres. Mais la stratégie de Néhémie a consisté d'abord à construire la porte des brebis. Amen. La porte de la miséricorde, c'est elle qui est la mission spécifique du peuple de Dieu. C'est telle qui est la mission spécifique de chacun de nos cœurs. Toutes nos œuvres doivent être inspirées par le fait de, si j'investis dans cette porte, vais-je amener plus de personnes au Seigneur? Que vais-je faire de mon argent? Que vais-je faire de mon temps? Que vais-je faire de ma famille? Des grâces, de la révélation que Dieu m'a donnée, de ma capacité d'enseigner, de prophétiser, de prier en langue, de louer, de quoi que ce soit. Que vais-je faire de celle? C'est celle qui est la priorité dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, dans ma vie vis-à-vis de moi. Je dois privilégier l'amour et la grâce. Dites avec moi l'amour. Amen. Et la grâce, comme le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Dans 1 Jean 4 au verset 8. Alors, ce texte, mes bien-aimés, je voulais vous le dire à l'église. Et je voulais me le dire à moi. Me sensibilise en fait que, en sa qualité de berger d'Israël. Hein, dites avec moi le berger. Hein, il est le berger de nos cœurs. Faut pas croire qu'une fois qu'on est dedans, on n'est plus une brebis. On est toujours une brebis. On a besoin d'entrer et de sortir. C'est pas parce que t'as un grand ministère que soudainement, toi, t'es le grand général, t'es le roi et t'es plus une brebis. Ben, t'es le roi des brebis, mais t'es une brebis quand même. D'accord? T'as peut-être une couronne, mais t'es quand même une brebis. Et quand tu pries, de toute façon, tu dis comme toujours, c'est dur, Seigneur, pourquoi je suis chrétien, pourquoi il m'arrive ça? Donc, tu seras toujours une brebis. Dieu travaille son corps. Il nous demande que notre concentration se porte toujours sur ceux qui sont perdus. Et je le dis au ministère, je le dis à mes anciens qui sont ici présents. Je me le dis à moi, je le dis à tous ceux qui vont nous rejoindre, je le dis à toutes nos églises locales, je le dis à tous ceux, ces dizaines de milliers de personnes qui vont écouter ce message sur Internet. J'aimerais vous le dire, n'est-ce pas? Eh bien, que la concentration du Christ reste 2000 ans encore après sur ceux qui sont perdus, sur ceux qui se souffrent. Je le dis à mes collègues pasteurs qui ont même des grandes églises, que la concentration du Christ reste sur ceux, d'abord en priorité sur ceux qui sont seuls, blessés, désemparés. Il faut à tout prix qu'ils retrouvent le bon berger et qu'ils réécoutent sa voix. Amen. Dans Jean 17, verset 20-21, je ne le lirai pas, lisez-le dans vos Bibles. Eh bien, le Seigneur prie pour tous ses petits. Et j'aimerais vous dire que la joie de la vie chrétienne, et je conclue avec ce texte de Galates au chapitre 4, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous dire que la joie de la vie chrétienne, et au verset 9, verset 15, pardon. La Bible dit, où donc est l'expression de votre bonheur? Et il dit, l'apôtre Paul, aux Galates, car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arrachés pour me les donner. Il se souvient de ce cœur, de cette volonté, de cet entrain, de cette bonhomie qu'il y avait lors de leur conversion. Tout à l'heure, le pasteur Alexandre, après avoir béni nos bien-aimés qui viennent de se marier pour mettre leur vie en règle devant Dieu, il a dit, et bientôt le baptême! Et vous avez vu le pasteur Alexandre quand il sourit jusqu'aux oreilles, on voit ses dents comme ça, n'est-ce pas? Comme les chèvres c'est la parole de Dieu, un troupeau de chèvres sur les collines de Sion, n'est-ce pas? N'est-ce pas mon bien-aimé dans le Cantique des Cantiques? Alors lui, il est comme ça, on le souvient comme ça. C'est un homme biblique, je l'ai toujours dit. Dès qu'il vous fait un sourire, vous avez l'impression d'être sur la montagne de Sion, n'est-ce pas? Et voilà que soudainement, dans une joie pastorale, il dit, et bientôt le baptême. Et je dis, oui, c'est ça, pasteur. La joie dans la vie chrétienne, la joie dans ta vie, c'est quand tu vois quelqu'un qui est sauvé et qui prend sa vie quand il a pu passer par la porte des... Brebis, dis-le avec moi, c'est quand donc qu'on est heureux et qu'on a le bonheur, quand quelqu'un passe par la porte des brebis, alléluia. Il n'y a rien de mieux pour un couple lorsque quelqu'un de tes proches passe par la porte des brebis. Et ici, il dit, où est donc votre l'expression de votre bonheur? Amen. Et c'est ce que j'aimerais vous dire, mes amis, peu importe les sacrificateurs, peu importe ceux qui râlent, peu importe ceux qui disent que ce sera pas possible, que ça coûtera trop cher, peu importe surtout les banquiers qui nous disent on n'investit pas pour ces choses. Nous, on leur dit construisons ensemble, alléluia. On construit la porte des brebis, on construit méthodiquement, en commençant par le plus important. On ne commence pas par les autres portes, même pas par la porte de l'inspection. Il y a beaucoup de gens, c'est la porte de l'inspection qu'ils font, c'est les inspecteurs des travaux finis. N'est-ce pas? Ils disent... Dans l'église, faut pas faire comme ça. Faut changer. Il y a un papier par terre. Ils ont oublié qu'ils peuvent le ramasser, qu'ils peuvent améliorer, etc. Comme disait Madame la ministre, elle disait, il y a beaucoup d'arbitres. En France, il y a plus d'arbitres que de joueurs. Mais ici, le Seigneur dit aussi, eh bien, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent passer par la porte de l'inspection, la dernière porte. Mais on inspecte quand on a fini de travailler et pas avant. Alléluia, ou pendant aussi. Alors, mes amis, bâtissons selon la méthode bien coordonnée, Et je termine par un dernier témoignage. Il y a quelque temps, je l'ai dit aux anciens cette semaine, moi j'étais très paternaliste. Hein. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose, j'aimais bien trouver la solution pour tout le monde. Et j'aimais bien surtout que vous n'ayez aucune souffrance. Quand j'avais les employés, vraiment, c'était moi qui faisais tout pour que quelqu'un avait un problème ou un missionnaire un problème, il fallait donner tout ça. Et puis, le Seigneur m'a résisté jusqu'au moment où j'ai compris que tous nous allons devoir passer par la même école. Et l'autre jour, il y a une des dames qui s'est portée garant pour reconstruire la porte de la muraille à Pentecôte. Et là, on est à quelques jours où la banque peut les menacer pour prendre leur maison. Cette dame, elle a 67 ans. Elle s'appelle Lucienne. Avec son mari. Et moi, bien sûr, je suis dans tous mes états parce que je dis, Seigneur, il faut trouver une solution très rapidement. Il faut qu'on puisse faire un financement, mais les banques veulent pas. Il faudrait qu'il y ait des gens riches qui nous aident à trouver des financements, mais les gens riches, c'est pas eux qui donnent souvent, malheureusement, en tout cas pour le moment en France. Et puis, j'ai téléphoné à cette dame, qu'est-ce qu'on va faire? Et elle me dit, mais pasteur, j'aimerais vous dire quelque chose, pasteur. Vous savez, moi et mon mari, on n'a rien fait de notre vie pour Dieu. On a été dans l'église, mais on n'a pas beaucoup construit. On était des chrétiens normaux, mais on n'a pas fait quelque chose de significatif pour Dieu. Et voilà que nous avons 67 ans. Et je disais à mon mari, à quel point, qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur quand on va se présenter devant lui? Il me dit, pasteur, n'ayez aucun souci. Si nous devons perdre notre maison, ce ne sera pas que nous l'aurions perdue, c'est que nous l'aurions semée pour construire l'évangélisation dans ce pays. Et ce sera pour nous le plus grand des privilèges. Si Dieu permet que nous ne l'ayons plus, nous ne l'aurons plus, nous verrons comment nous ferons. C'est embêtant parce qu'on n'a pas du tout d'argent, ils ne sont pas riches du tout, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas comment on fera, mais au moins on aura fait quelque chose pour Dieu. Je peux vous dire que cette personne-là m'a fait beaucoup de bien, mais elle m'a fait aussi du mal. Parce que si elle avait râlé de ça, j'aurais dit, ben écoutez madame, je fais ce que je peux. Tandis que là, je dis, Seigneur, elle a déjà toute la bonne attitude, tu n'as plus besoin de preuves. C'est pas à 67 ans qu'elle va perdre sa vie. Seigneur, fais quelque chose. Mon cœur a envie que Dieu... Mais le Seigneur me dit aussi, dans ces temps, dans ce qui est en train de se passer, qu'il va bénir ceux qui construisent la muraille aussi. Et que nous devons passer ensemble par ces épreuves. C'est pas que Néhémie qui a construit, les autres aussi. Ils ont construit avec lui. Ils ont dit, Néhémie, occupe-toi de toi, nous on s'occupe de nous. Et il nous arrivera ce qui nous arrivera, mais on construira. Alléluia. Et le temps est en train de venir en France où il y a des gens matures. Où il y a des gens qui disent, pasteur, comme cette personne-là, ne t'inquiète plus. Ne porte pas tout seul. Nous sommes là aussi. Je sais que du coup, Dieu va l'honorer. Amen. Dieu va l'honorer. Mais alors, quel espoir des témoignages comme ça me donnent lorsque des gens me disent, t'inquiète pas. D'autres personnes, je devais leur rendre là. Ils ont dit, t'inquiète pas. On construit. Une autre m'a dit aussi, si on perd tout de toute façon, on a tout reçu de Dieu. Je dis, oh, l'ambiance est en train de changer dans notre pays. Et moi, je dois arrêter d'être paternaliste. Attendez, je m'occupe de tout, etc. Non, on va faire selon la grâce de Dieu. On fait chaque jour suffit sa peine. Et Dieu va envoyer d'autres personnes qui vont dire, moi, j'ai une truelle aussi. L'épée dans la main, la truelle dans l'autre main. Alléluia. Levons-nous, chère Église, et construisons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen et amen et amen. Je vous bénis de tout mon cœur. Vraiment, soyez bénis dans le Seigneur. Oh, passez une merveilleuse semaine. Vous êtes choux, faites-vous des gros bisous. Je voulais prier pour vous, mais je prierai pour vous la semaine prochaine. Amen. Et applaudissons le Seigneur de tout notre cœur.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.